Il est 19h. Olivier Bénis pour le journal. Bonsoir Olivier.
Bonsoir à toutes et à tous. On attendait des gilets jaunes, des drapeaux rouges, du Black Bloc, mais aussi beaucoup de bleu en face, celui des forces de l'ordre. Elles voulaient à tout prix éviter le scénario du 1er mai 2018. Et au final, la situation a été quasi inverse pour ce 1er mai 2019. On vous explique pourquoi dans un instant. On verra aussi que les ambiances dans les cortèges étaient très différentes selon le lieu de manifestation. Tendu et brutal d'un côté, bon enfant et calme de l'autre. Nous rejoindrons nos reporters dans les cortèges à Paris et à Bordeaux. Autre manifestation dans un contexte explosif au Venezuela. L'opposant Juan Guaido tente d'organiser une démonstration de force dans la rue après une tentative de coup ratée hier. Nous reviendrons également sur cette condamnation de Julian Assange en Angleterre, 50 semaines de prison ferme, et sur une découverte majeure sur de très lointains ancêtres au Tibet. Juste après ce journal, le téléphone sonne, Fabienne, avec ce terrible constat: voler c'est pas beau, mais travailler c'est trop dur.
Ouais, c'est vrai qu'on va parler à la fois de l'injonction du bonheur au travail et des souffrances au travail aussi. Ça paraît contradictoire et pourtant l'un et l'autre existent bel et bien. On en parle au 01 45 24 7000.
Toutes les couleurs y étaient donc, du jaune au rouge en passant par le noir, le nombre aussi pour ce 1er mai bien particulier, le premier depuis le début du mouvement des gilets jaunes. 40 000 manifestants ont défilé à Paris, selon le comptage du cabinet Occurrence, qu'une vingtaine de médias, dont France Inter, ont décidé d'utiliser pour éviter les batailles de chiffres. Thibault Lefebvre, vous étiez vous-même présent dans le cortège parisien ce soir, bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Le cortège qu'on a suivi au fil de la journée sur France Inter, dans ses bons comme dans ses mauvais moments, où en est-on à présent et qu'est-ce que vous avez vu de votre côté à Paris en ce 1er mai ?
Oui, eh bien, c'est désormais une fin de cortège désormais calme et bon enfant, un 1er mai classique avec des manifestants en rouge ou en jaune qui progressivement quittent les lieux et ils peuvent constater les nombreux dégâts autour de la place d'Italie et du boulevard de l'Hôpital, car en milieu d'après-midi, la situation a été particulièrement tendue avec des abribus cassés, une agence bancaire saccagée et une voiture qui a brûlé sous les yeux de Benoît. Il a vu le brasier de son appartement.
On a le droit d'avoir des revendications, en revanche la violence... Non, c'est très excessif. Juste parce que c'est une Mercedes, on la brûle pas. Enfin, on peut avoir des revendications sans brûler une voiture parce que c'est une Mercedes.
J'ai tout simplement évité que la belle voiture.
Et cette indignation, celle de Benoît, est partagée par certains gilets jaunes, car quelques minutes avant l'incendie de cette voiture, Maxime a essayé d'éteindre un premier départ de feu à l'intérieur de l'habitacle.
J'ai tout simplement évité que la voiture prenne feu. C'est une vieille voiture, le propriétaire il va rien se faire rembourser dessus, ça sert à rien.
Donc la violence, oui, mais pas à tout prix.
Pas à tout prix, c'est ça.
Quelques minutes avant, un peu plus haut sur le boulevard de l'Hôpital, le gros des échauffourées s'est produit devant le commissariat du 13e arrondissement à une centaine de mètres de la place d'Italie. Parmi ces black blocs ou ces ultra jaunes, selon l'expression du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, Kevin, jeune entrepreneur et gilet jaune de la première heure.
Mais regarde en face, un pavé c'est quoi contre ça, c'est quoi? T'as vu les éborgnés, t'as vu les gens qui ont perdu des mains? C'est quoi? C'est rien. Ouais, c'est un glavio comparé à un canon.
C'est des armes de guerre.
C'est ça, donc j'ai envie de te dire, la réponse d'un pavé, j'ai envie de te dire, c'est pas grand chose un pavé.
C'est
pas grand chose. Parce que j'en ai marre de ce pays, j'en ai marre du gouvernement, j'en ai marre de tout. On est en galère, on a faim, tous les gens ont faim, on en a marre. Moi je te dis, c'est le système. C'est tout le système, l'oligarchie, c'est tout le monde qu'il faut niquer, c'est le système en entier.
Et parmi les symboles de ce système, l'hôpital, selon l'assistance publique, 40 à 50 manifestants se seraient introduits dans l'hôpital de la Salpêtrière. Ils auraient alors tenté de pénétrer dans le service de réanimation avant d'être repoussés par des infirmiers.
Merci beaucoup Thibault Lefebvre. Des débordements, il y en a donc eu, mais on pourrait presque dire que c'était attendu. Côté gouvernement, on annonçait dès hier une journée noire, comme le Black Bloc, à l'image du 1er mai 2018, qui avait été émaillé d'images de dégradation diverses et variées. À Paris, 7400 policiers et gendarmes étaient donc mobilisés pour l'occasion. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Hier soir, vous nous racontiez justement ce dispositif policier impressionnant et l'inquiétude du ministère de l'Intérieur. Concrètement, qu'est-ce que ça a donné sur le terrain aujourd'hui ?
Eh bien, ce qui est très clair, c'est que cette fois, les forces de l'ordre avaient décidé de ne pas laisser se constituer un véritable black bloc, comme on l'avait vu l'année dernière sur le pont d'Austerlitz. En quelques minutes, des centaines d'activistes de différentes branches de l'extrême gauche française et européenne qui changent de tenue vestimentaire. Là, près de Montparnasse, à 13h, une centaine de personnes toutes en noir ont commencé à envoyer des projectiles sur les forces de l'ordre. D'autres militants ont alors pris position devant les cortèges des syndicats qui commençaient à peine à se former. 15 minutes plus tard, on a assisté au premier tir de grenades lacrymogènes, aux premières charges et aux premières interpellations musclées. Le reste des opérations de maintien de l'ordre est à l'avenant. À chaque tentative de formation compacte de groupes d'ultra, gilets jaunes ou extrême gauche, on a vu dans les minutes qui ont suivi des affrontements liés à des interventions des différentes unités CRS ou de la préfecture de police de Paris. Ça a été le cas près du commissariat du 13e arrondissement, Thibault Lefebvre le disait il y a un instant, qui a été attaqué. Et puis surtout, l'épisode de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, effectivement, près duquel un CRS toulousain, un capitaine, a reçu un pavé dans la tête. Il a été transporté aux urgences, juste à côté donc. Et c'est justement dans cet hôpital de la Pitié-Salpêtrière qu'un groupe d'une quarantaine d'individus s'est infiltré par l'entrée du Crous, la cafétéria universitaire. Il y a eu pas mal de dégradations, mais bien plus grave, selon le patron des hôpitaux parisiens, Martin Hirsch. Ces manifestants ont effectivement tenté d'attaquer le service de réanimation de l'hôpital, avant d'être finalement tous interpellés par la police. On ne sait pas encore s'il y a un lien avec la présence du CRS qui avait reçu un pavé un peu plus tôt dans l'après-midi dans la tête.
Merci beaucoup Emmanuel Leclerc. Et puis notez qu'au total, à 18h, on recensait 330 interpellations et près de 18 000 contrôles préventifs. Alors, ce 1er mai, c'est en principe la journée des syndicats, mais cette année, tout a été un peu bousculé. D'abord par les gilets jaunes, avec qui les représentants syndicaux espéraient construire une forme de convergence des luttes, par les Black Blocs, qui, comme l'année dernière, ont été au cœur d'affrontements. C'est notamment ce qui a poussé la FSU à quitter le cortège rapidement, mais aussi par le dispositif de sécurité, en tout cas selon les syndicats. Solidaire estime que le gouvernement a essayé de leur voler ce 1er mai, et la CGT dénonce une répression inouïe à Paris pour répondre aux actes de violence de certains. Même le secrétaire général Philippe Martinez en aurait été victime, et il a pleinement exprimé sa colère et son indignation à notre micro.
Moi, j'ai entendu les déclarations de Monsieur Castaner. Il a changé de préfet en nous disant « vous allez voir ce que vous allez voir ». Et aujourd'hui, au début de la manifestation, vous étiez peut-être témoin, les CRS ont tiré sur la camionnette de la CGT. J'étais au milieu. Et donc oui, il y a un problème, il y a un gros problème. En tout cas, on en demandera des explications. J'ai vu beaucoup de policiers, mais tout le monde a pu constater qu'en tête de manifestation, la CGT a été prise pour cible.
Et de son côté, la préfecture de police de Paris assure dans un communiqué que la CGT n'a jamais été la cible des policiers et gendarmes. Christophe Castaner a lui envoyé un message à Philippe Martinez pour lui demander s'il avait besoin d'assistance. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les manifestations et leur cortège de débordement à Paris. Mais sachez tout de même que cela n'est pas une fatalité. Loin de là, partout ailleurs, d'autres Français défilaient dans d'autres villes, dans une ambiance bien différente, souvent très nombreux, bien plus qu'habituellement pour des rassemblements de fêtes du travail. Plusieurs milliers de personnes à Toulouse ou Marseille, 3000 à Brest, 2500 à Besançon ou Rouen, mais aussi 6400 personnes à Bordeaux, où l'on va s'arrêter quelques instants. Des manifestants qui ont défilé dans une ambiance bon enfant et un cortège bicolore. Reportage sur place d'Ezekiel Fernandez.
Un seul cortège au départ, place de la République. Beaucoup de jaunes, y compris chez les militants, regroupés derrière les banderoles syndicales. Le parcours n'a pas été défini au préalable et c'est la première fois dans l'histoire du 1er mai à Bordeaux. Le centre historique est complètement verrouillé par les forces de l'ordre. Résultat, il faut improviser. Clément porte une banderole de la CGT tout en arborant un gilet jaune.
Le 1er mai, le cortège syndical s'adapte à la réalité, malheureusement, de ce qui se passe tous les samedis, c'est-à-dire un État qui restreint les libertés, qui restreint la démocratie, etc. Et donc on est obligé de naviguer dans tout ça. Alors c'est vrai que du coup, bah, ça peut donner un peu une impression de flottement, c'est clair.
Le cortège finit par se scinder en deux. La CGT mène ses troupes vers la place de la Victoire, tandis que le gros du cortège poursuit son chemin vers les quais. Véronique, gilet jaune depuis le 17 novembre, fait valoir fièrement parmi ses états de service une garde à vue de 24 heures, expérience qui n'a en rien entamé sa détermination.
Il ne faut pas avoir peur, en fin de compte. C'est l'État qui veut faire peur aux gens pour pas qu'ils viennent manifester. On risque effectivement de partir en garde à vue, c'est un risque, on risque d'être gazé. Mais la plupart du temps, de toute façon, les manifs se passent super bien. À part quand ils ont les ordres de gazer, de matraquer, d'attraper des gens qui ne font rien, je vois pas la menace.
Au bout du compte, quoique bousculé par le contexte gilet jaune, ce 1er mai bordelais s'est déroulé sans incident notable.
Bien loin du cortège parisien et des autres, Marine Le Pen était aujourd'hui en Moselle. La présidente du Rassemblement National participait à un banquet patriotique avec sa tête de liste pour les européennes, Jordan Bardella, mais aussi, comme le veut la tradition dans son parti, déposer une gerbe au pied de la statue de Jeanne d'Arc. Dans le discours qui a suivi à Metz, face à 1200 militants, Marine Le Pen a tenté de prendre de la hauteur, quitte à se perdre parfois dans des démonstrations déclarations un peu nébuleuses, Maxence Lambrecq.
Une demi-heure de discours sans jamais citer Emmanuel Macron. Comme si l'ennemi était ailleurs, comme si elle voulait marcher dans les pas de son adversaire et philosophe, le candidat LR François-Xavier Bellamy. Alors elle enchaîne références et concepts.
L'Union européenne n'est pas l'Europe. C'est un champ d'expérimentation du mondialisme, le laboratoire du nomadisme, le terrain vague du sans-frontiérisme.
Puis Marine Le Pen s'inquiète de la tiers-mondisation économique de l'Europe, dénonce l'immigration sans s'apesantir, évite la question monétaire et multiplie les formules.
Face à ce Tchernobyl économique et social et identitaire, notre projet constitue une révolution.
Les applaudissements peinent à venir, les militants attablés écoutent poliment et se réveillent quand la tête de liste Jordan Bardella simplifie le message.
Si Macron arrive en tête, alors le rouleau compresseur va se remettre en marche. Alors la réforme des retraites, la réforme de l'indemnité chômage, le matraquage fiscal, le laxisme à l'égard de l'insécurité et de l'immigration vont se poursuivre. Alors mes amis, le 26 mai, nous allons nous rendre aux urnes et nous allons ensemble stopper Macron.
Stopper Macron, le seul vrai moteur de la mobilisation dans cette campagne, et Marine Le Pen en a conscience, mais elle a tenté aujourd'hui de gagner en crédibilité en se plaçant au-dessus de la mêlée. À Metz, Jérémy Thuil, Maxence Lambrecq, France Inter.
Il est 19h11 sur France Inter. Olivier, au Venezuela, Juan Guaido promettait aujourd'hui la plus grande marche de l'histoire du pays.
Une marche pour réclamer à nouveau le départ du président Nicolas Maduro, 3 mois après le début du conflit avec celui qui s'est autoproclamé président légitime, Juan Guaido, et au lendemain d'une tentative ratée de soulèvement militaire qui a fait face à une brutale répression des forces loyalistes. Une nouvelle manifestation a donc lieu en ce moment même à Caracas. Et sur place, la situation est toujours explosive, hein, Benjamin Delisle.
La manifestation de l'opposition à Caracas a commencé à dégénérer lorsque les manifestants ont voulu bloquer l'autoroute qui sépare le quartier d'Altamira de la base militaire de la Carlota. Ils ont tenté de bloquer les voitures lorsque les militaires à l'intérieur de la base ont jeté des gaz lacrymogènes sur les manifestants. Un mouvement de foule a eu lieu et depuis, des affrontements sont en cours. La manifestation est très fournie. Il y a énormément de monde autour de cette autoroute pour soutenir les quelques manifestants qui affrontent les militaires. D'autres manifestations ont lieu un peu partout, plus pacifiques, en particulier à l'ouest de Caracas, du côté des chavistes qui sont réunis devant le palais de Miraflores pour soutenir Nicolas Maduro, qui continue d'accuser l'opposition de tentative de coup d'État. En attendant, les violences continuent à l'ouest de Caracas et un scénario semblable à celui de la journée d'hier est en train de se profiler pour la fin de la journée.
Merci Benjamin Delisle, correspondant de RFI à Caracas pour France Inter. Notez que le chef du Pentagone américain a annulé tout à l'heure un déplacement en Europe à cause justement de la situation au Venezuela. Le même jour, le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré qu'une intervention américaine sur place était possible si c'est nécessaire. 50 semaines, presque un an à passer en prison. À peine sorti d'une autre forme de captivité à l'ambassade d'Équateur, Julian Assange va donc rejoindre une cellule britannique tout à fait officielle. En attendant de savoir si le pays l'extrade ou non vers les États-Unis, comme le réclame Washington, le fondateur de Wikileaks, bête noire de l'administration américaine, avait déjà été reconnu coupable d'avoir violé les conditions de sa liberté provisoire. Il ne restait qu'à déterminer sa peine. C'était le 11 avril dernier, juste après son arrestation, dont les images ont fait le tour du monde. Et justement, cette nouvelle décision indigne déjà profondément les soutiens de Julian Assange, Antoine Gignot.
Une seule réaction, un seul geste avant d'être emmené vers sa cellule. Julian Assange lève le poing en direction de la tribune. Quelques-uns de ses partisans lancent des cris. Vous devriez avoir honte. Coupable de s'être réfugié en 2010 à l'intérieur de l'ambassade d'Équateur, au lieu de répondre aux convocations des juges qui voulaient l'interroger à propos de 2 affaires d'agression sexuelle et de viol en Suède, le fondateur de Wikileaks est condamné à une peine proche du maximum. La juge rappelle que les procédures et la surveillance de l'immeuble où il est resté enfermé pendant 7 ans ont coûté près de 20 millions d'euros aux contribuables britanniques. Cette condamnation n'est d'ailleurs qu'un détail dans la lutte judiciaire qui l'attend. La procédure d'extradition lancée par les États-Unis avec une première audience demain peut potentiellement durer entre 3 et 5 ans avec des juges assez peu bienveillants à son égard. En le plaçant en détention provisoire le 11 avril, Michael Snow, qui menait l'audience, l'avait déjà qualifié de personnage narcissique incapable d'aller au-delà de ses propres intérêts. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Et aux États-Unis, justement, le rôle de la Russie dans la présidentielle 2016 continue à passionner les institutions américaines. Aujourd'hui, c'était au tour du ministre de la Justice lui-même, l'attorney général William Barr, d'être interrogé sur sa gestion du rapport du procureur spécial Robert Mueller. C'est le premier membre du gouvernement à passer ainsi sur le grill. L'opposition démocrate l'accuse d'avoir présenté une version trompeuse des conclusions de ce document qui dénonçait de possibles tentatives d'entrave à la justice de la part du président Donald Trump. C'est une défaite difficile difficile à encaisser pour Caster Semenya, mais aussi pour l'ensemble des athlètes hyperandrogènes, ce qui génère donc naturellement un taux de testostérone très élevé. Le tribunal arbitral du sport a rejeté son recours contre les règles de la Fédération internationale d'athlétisme, des règles qui obligent les athlètes hyperandrogènes à faire baisser leur taux de testostérone. Le tribunal émet toutefois des réserves, notamment sur la réalité de l'avantage que procurerait cet excès de l'hormone et sur les effets secondaires du traitement que devront subir les athlètes pour pouvoir continuer à courir.
Allez, j'allais dire un peu d'histoire, non, un peu de préhistoire en fait, Olivier.
Avec le plus ancien fossile d'hominidé jamais retrouvé sur le plateau tibétain, 3200 mètres d'altitude, et il est âgé, tenez-vous bien, de 160 000 ans. Une mâchoire qui a fait tomber celle des scientifiques qui ont analysé son ADN. Des paléontologues chinois, allemands et français l'ont attribué donc à l'homme de Denisova, une espèce aujourd'hui disparue. C'est une découverte importante, on s'en doute, Sophie Becherel, mais vous allez nous expliquer pourquoi.
Fossile après fossile, le puzzle prend forme et avec lui l'histoire du peuplement de l'Est de l'Asie. Cette mâchoire inférieure avec ses deux dents restantes est celle d'un adolescent denisovien au menton fuyant. Elle a été découverte par des moines tibétains dans la grotte de Baishiya, au lieu du bouddhisme. Le paléontologue Jean-Jacques Hublin est l'un des auteurs de cette étude parue dans Nature.
Ce qui est extraordinaire, d'abord, c'est le lieu de la découverte. C'est une grotte qui est à presque 3300 mètres d'altitude. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'imaginait que des hominines archaïques, il y a 160 000 ans, pouvaient vivre dans un environnement comme le plateau tibétain.
Car jusqu'à cette découverte, les restes de l'homme de Denisova n'avaient été trouvés que dans la région de l'Altaï, en Sibérie, à 700 mètres d'altitude, et ils attestaient d'une présence 120 000 ans plus tard. Cela posait des questions, notamment parce que l'analyse de l'ADN fossile avait mis en évidence la présence d'un gène d'adaptation à la haute montagne, gène dont les Tibétains d'aujourd'hui et les Chinois en actuel ont hérité. Jean-Jacques Hublin.
Jusqu'à présent, comme on ne connaissait des Denisoviens que dans des régions de basse altitude, dans l'Altaï, on avait un peu de mal à comprendre comment ils avaient pu transmettre un gène aux Tibétains, quand même à plus de 2000 km de là, un gène qui permet de respirer une atmosphère raréfiée en oxygène. Et en fait, l'explication, c'est simplement que les Denisoviens ont aussi vécu dans ces latitudes élevées.
Enfin, cette mandibule va pouvoir être comparée avec d'autres fossiles présents dans les collections chinoises en particulier. Jean-Jacques Hublin pense que cette espèce, l'homme de Denisova, a pu avoir une aire géographique beaucoup plus large qu'on ne sait aujourd'hui.
Merci beaucoup Sophie Becherel. Et pour en savoir plus sur cette mâchoire venue du fond des âges, rendez-vous sur franceinter.fr. C'était il y a beaucoup moins longtemps, hein, même pas 10 ans. Les Petits Mouchoirs, ce film où Guillaume Canet nous présentait sur grand écran sa bande de potes, leur maison ferrée, leurs potes ostréiculteurs, leurs rires et leurs drames. Les Français avaient accepté l'invitation avec enthousiasme, 5,5 millions de spectateurs et pas mal de fous rires. Aujourd'hui, Marion Cotillard, Gilles Lelouch, François Cluzet, Laurent Lafitte et les autres reviennent un peu plus ridés et pas aussi soudés qu'avant. Ça s'appelle « Nous finirons ensemble », c'est toujours mené par Guillaume Canet, mais il emmène tout le monde dans une autre direction, Corinne Pellissier.
Dans la vie comme au cinéma, l'amitié n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a parfois des disputes, des priorités qui changent et qui imposent de se parler plus franchement. Terminés donc les embrassades et les fous rires, nos héros désormais vont se dire les choses en face et pour certains même solder les comptes après 3 années sans se voir. Autant dire que la fête d'anniversaire imaginée par la nouvelle femme de Max, François Cluzet, ne s'annonce pas ici des plus chaleureuses.
On voulait juste faire une surprise pour ton anniversaire.
Mais je ne veux pas fêter ce putain d'anniversaire ! Merde !
C'est pas parce qu'on a été potes pendant 20 ans qu'on est obligé de rester. Hein.
Le pilier de la bande, désormais ruiné et en dépression, ne veut voir personne. Et les retrouvailles tourneront court, ouvrant la porte à tous les reproches et quelques répliques assez drôles. Un film en forme de catharsis pour Guillaume Canet, qui s'interroge ici sur le sens de l'amitié, le temps qui passe. Toujours la même bande, la même maison ou presque, mais une complicité qu'il va falloir apprendre à recréer. Davantage de lâcher prise dans ce deuxième film, moins de pathos et un message on ne peut plus clair. L'essentiel en amitié n'est pas d'être là tout le temps, mais d'être là quand il faut.
Nous finirons ensemble, c'est donc en salle à partir d'aujourd'hui. Plus gênant qu'un embouteillage, plus dangereux qu'un rassemblement de Black Bloc, la ville de Guwahati, dans le nord-est de l'Inde, a été le théâtre du passage très remarqué d'un éléphant sauvage. L'animal venu d'une réserve voisine s'est invité en plein milieu de la rue principale, bousculant quelques voitures, effrayant les habitants, heureusement sans faire de blessés. Le pachyderme a été suivi à distance respectable par les policiers et les gardes forestiers avant qu'il trouve la bonne opportunité pour l'endormir au milieu des curieux. Il a depuis, Fabienne, rassurez-vous, retrouvé son domicile habituel.
Et c'est vrai que j'étais très inquiète. Merci beaucoup Olivier Bénisset, à demain pour le journal.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et Sébastien Léas, un temps plus que, plus perturbé, pas plus que, mais plus perturbé en tout cas, qui se met en place.
Oui, des orages éclatent en ce moment du côté de Saint-Nazaire et de Niort, et on a aussi de bonnes averses sur la Bretagne et la Vendée. Ces averses et ces orages vont progressivement glisser vers l'est d'ici à demain. L'après-midi, on retrouvera ce temps agité entre la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Sur son passage, cette perturbation donnera parfois de bonnes quantités de pluie, surtout sur le centre de l'Hexagone, entre le Poitou-Charentes, l'Auvergne et le centre-Val de Loire, dès cette nuit d'ailleurs. Après la perturbation retrouvera un temps plus variable. Les éclaircies seront belles sur les régions de l'ouest, plus timides entre le nord de la Seine, l'Île-de-France et le Massif central, puisqu'elles seront entrecoupées par quelques averses demain après-midi. Entre l'Hérault et l'ouest de la Provence, l'après-midi sera bien ensoleillé. Et puis du soleil, la Corse en aura tout au long de la journée, même si une petite averse pourra naître sur le relief. À noter aussi demain après-midi un ciel de plus en plus nuageux sur la Bretagne.
Et des températures qui baissent.
Oui, on se dirige vers une fin de semaine fraîche, en particulier sur la moitié nord. Malgré cette baisse, les maximales seront encore de saison. Demain, 14 degrés pour Saint-Brieuc, Le Havre, Besançon et Valenciennes, 15 degrés à Paris et à Metz, 17 degrés pour Cognac, Pau et Le Mans, 19 degrés pour Strasbourg et Montauban, ambiance un peu plus douce autour de la Méditerranée, jusqu'à 22 degrés en Corse et 23 degrés pour Marseille et Montpellier.
Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup.